Je dis bonjour à tous les frères qui reviennent de Montmorin. On voit qu'ils ont eu le soleil. Hein. Alors nous étions en train d'entrer dans ce dialogue de Jésus et de la Samaritaine. Le cycle de l'époux. Et puis en même temps, voir le parallélisme entre ce dialogue et celui de Nicodème. Voir la différence. Pour saisir la manière dont Jésus enseigne. La manière dont Jésus, tout de suite, regarde dans le cœur de l'homme sa capacité d'aimer. Et en même temps, l'obstacle à cette capacité d'aimer. Je crois que c'est ça qu'on doit saisir. C'est important, parce que c'est ça que notre Seigneur veut que nous comprenions. On va dire qu'il y a une méthode pédagogique du Christ. Il est sous le souffle de l'Esprit Saint. Et alors il y a ce regard très pénétrant, très profond, qui est unique. Et ici, c'est particulièrement fort quand Jésus est en face de la Samaritaine, parce qu'il y a un tel contraste entre la limpidité du cœur de Jésus et l'opacité de la Samaritaine. Il y a une opacité très très grande. On va voir, Jésus va enlever d'un seul coup une sorte de psychanalyse divine merveilleuse, d'arriver tout de suite au nœud qui fait qu'à partir de ce moment-là, cette femme a glissé, a perdu le vrai sens de sa vie. Et Jésus tout de suite pointe là. Ça évidemment, c'est le regard divin du Christ. Vous voyez, il fait la même chose avec Nicodème, mais c'est tout à fait autre chose. L'obstacle n'est pas du tout le même. Qu'est-ce qui empêche Nicodème d'aller jusqu'au bout de la vérité? Qu'est-ce qui empêche la Samaritaine d'être dans la vérité pratique? Et des deux côtés, on voit une correction que Jésus fait. Il y a une correction que Jésus fait à Nicodème en lui reprochant de ne pas connaître ce qu'il devrait connaître en tant que docteur en Israël. Tu ignores ces choses. Et ce que Nicodème ignore, c'est la distinction entre la naissance selon la chair et le sang et la naissance selon l'esprit. Et ce que la Samaritaine ignore, c'est que son cœur est fait pour autre chose que pour cet amour qui n'est plus un véritable amour, ces amours successifs qui accablent. Et des deux côtés, on voit la purification, purification de l'intelligence, purification du cœur. On pourrait dire ça du reste, hein, parce que vis-à-vis de Nicodème, c'est la purification de l'intelligence. C'est normal, puisque c'est un docteur en Israël. Et c'est la purification du cœur. Jésus veut la double purification. Hein. La purification de l'intelligence, elle est nette avec Nicodème. Nicodème devrait connaître et ne pas connaître ce qu'il devrait connaître, c'est quelque chose qui alourdit et qui l'empêche d'aller plus loin. Et la Samaritaine, elle a reçu quand même une grâce de Dieu au point de départ. Dieu venait au point de départ complètement enfoui, mais elle a reçu qu'un talent. Quand Jésus va la reçue, la grâce initiale qu'elle avait. Donc Jésus commence par l'interroger, rien en un désir. C'est Jésus qui prend l'initiative, alors qu'avec Nicodème, c'est Nicodème qui avait pris l'initiative. Nicodème peut prendre l'initiative, alors que la Samaritaine est incapable de prendre l'initiative. Et Jésus le sait. C'est pour ça que Jésus prend les initiatives quand il sait qu'on ne peut plus lui prendre. Alors il prend l'initiative pour la Samaritaine. Cette Samaritaine est dans l'impossibilité. Elle n'a plus de désir, elle n'a plus d'amour. Tandis que Nicodème, lui, il a un amour de la vérité, il a une recherche de la vérité. Mais cette recherche de la vérité ne va pas jusqu'au bout, parce qu'une certaine satisfaction de soi, l'auto-satisfaction, c'est la chose la plus terrible dans la recherche de la vérité. Et il y a cette auto-satisfaction de cet homme qui est un notable, de cet homme qui est un docteur en Israël, de cet homme qui est habitué à être considéré. Tandis que la Samaritaine, elle n'est pas habituée à être considérée, pécheresse publique, tout le monde le sait. Mais elle oublie quelque chose. Le talent premier que Dieu lui a donné n'est pas toujours en acte. Alors, on voit très bien, il s'agit de déterrer ce talent. Et c'est pour ça, je crois, que Jésus parle tout de suite, hein, « Si tu savais le don de Dieu ». Elle a oublié le don de Dieu. Et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors on pourrait dire, il y a le don de Dieu premier, puis le don que Jésus apporte, voyez. C'est sûrement les deux choses différentes. Saint Augustin aime d'opposer les deux, le puits et l'eau vive. Hein. Ça c'est Saint Augustin, on voit très bien le symbolisme du puits, mais il y a tout un symbolisme des puits à travers tout l'Ancien Testament. Les puits jouent un rôle très important et Jésus donne l'eau vive. Le puits c'est en quelque sorte la première révélation. Alors c'est la première révélation que la femme pouvait avoir et Jésus apporte quelque chose de nouveau. Et Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive ? Alors elle commence à se réveiller là. Et elle montre tout de suite sa supériorité. Il y a une double supériorité. Il y a la supériorité sur Jésus en tant qu'il est le mendiant. Tu n'as rien pour puiser et prétend donner l'eau vive. On voit très bien le bon sens de cette femme. Elle sait ce que c'est. Et puis ensuite, la supériorité de la Samaritaine sur le Juif. Elle a reconnu qu'un Juif, normalement, ne parle pas à une Samaritaine. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, il a bu, lui, ses fils et ses bêtes. Alors on compare Jésus et Jacob. Ça, constamment, Jean nous montre ces comparaisons qu'on fait, ces oppositions qu'on fait de Jésus avec Abraham, avec Jacob, avec Moïse, et puis avec les pauvres. Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle. » Voilà la grande solution, c'est d'avoir une source au plus intime de nous-mêmes. Alors à ce moment-là, on ne manque jamais d'eau. C'est ça que Jésus fait comprendre, que son don, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce qu'elle peut imaginer. C'est tout à fait différent. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Alors, cherchez bien le symbolisme de l'eau. Parce qu'il y a tout un symbolisme qui est là, on le voit très bien. Et cette femme comprend un peu matériellement ce que dit Jésus. Et elle ne cherche pas à découvrir la signification profonde. La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne me rende plus ici pour puiser. » Donc, elle la comprend, elle comprend ce don de Jésus comme un don matériel. Comme Nicodème avait compris l'enseignement de Jésus d'une façon matérielle. Des deux côtés, hein. Il y a une grande différence entre l'intelligence de la Samaritaine et l'intelligence de Nicodème. Mais par rapport à Jésus, c'est à peu près la même chose. C'est assez étonnant, du reste, ça. Et c'est très beau, ça. Parce que ça fait comprendre tout de suite la différence. C'est vrai, Nicodème et la Samaritaine, c'est quand même pas tout à fait du même genre d'intelligence. S'il passait un examen, je crois qu'on verrait la différence des notes de la Samaritaine et de Nicodème. Mais face à Jésus, pas une grande différence. C'est relatif, les différences. Ça dépend où le barème. Alors, devant ce désir de cette femme, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif. Jésus va tout de suite l'humilier. Il fait la même chose avec Nicodème. Quand on demande, on exprime quand même une certaine pauvreté. Donc il y a une certaine humilité. Toute demande implique une certaine humilité. On demande, on réclame. Et dès qu'il y a ce petit signe d'humilité, immédiatement, Jésus alors humilie. Va, appelle ton mari et viens ici. Et Jésus sait très bien ce qu'il dit quand il dit ça. La femme répondit, elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu en as eu cinq, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Jésus remet cette femme en face de la réalité. Elle n'est plus aimée et elle n'aime plus. Situation limite de la femme. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Elle est gênée, mais en même temps elle est soulagée. Enfin, elle rencontre un homme qui voit clair. Je vois que tu es un prophète. Un homme qui la remet dans la vérité. Alors il y a dû avoir un grand silence là. Parce que c'est pas étonnant. Hein. Quand on est en face de cette réalité, c'est un peu douloureux. Hein. Et puis c'est vite enlevé. En un instant, va, cherche ton mari. Et alors on voit qu'à partir de ce moment, la femme prend l'initiative du dialogue. Jésus avait pris l'initiative, donne-moi à boire. Et tout était là-dessus. Ce désir de Jésus avait commencé pour donner à la femme un désir. Ça, c'est la pédagogie merveilleuse de Jésus. Et une fois que cette femme a exprimé son désir, une fois que Jésus l'a remise devant la vérité, elle peut prendre une initiative. Et on voit cette femme prendre une initiative. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Voilà en réalité hein, ce qui a été le grand trouble de cette femme dans sa jeunesse. Le don que Dieu lui avait donné, c'était le don de l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères, et donc elle aussi, ça fait partie de la tradition. Ça. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que c'est à Jérusalem qui est le lieu où il faut adorer. Donc, dans sa jeunesse, cette femme a connu ce trouble, cette inquiétude. Il y a eu en elle quelque chose qui a mis un doute à l'égard de ce qu'il y avait de plus fondamental en elle. Ce désir d'adorer. Elle s'est demandé si cette adoration était vraie, si c'était bien cela qu'elle devait faire, ou si c'était suivre les Juifs et d'adorer Jérusalem. On sent très bien que Jésus, la remettant devant la vérité, tout de suite, on découvre la source première de ce doute qu'elle porte encore en elle. Mais parce que le prophète est là, on parle des choses de Dieu, tout de suite. Et c'est ça la grande inquiétude dans son cœur. Et c'est ça aussi le premier don de Dieu. On revient au premier don de Dieu, et qui demeure malgré toute cette vie un peu à côté. Et ça demeure, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. L'adoration, c'est tellement inscrit dans notre cœur. L'exigence de l'adoration, c'est tellement inscrit dans notre cœur que même si on a une vie qui n'est plus conforme à ce que Dieu réclame, même si on dissipe le bien et le don, pas seulement l'enfouir, mais le dissiper, dès qu'on est en présence de l'homme de Dieu, de l'homme de prière, du prophète, immédiatement, ça revient. Jésus lui dit, crois-moi, femme, elle vient l'heure où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. C'est très fort ce que Jésus ici fait comprendre à la Samaritaine. Il ne faut jamais revenir sur le lieu de la lutte. Il faut toujours le dépasser. On essaiera de comprendre ça, parce que je crois que c'est le grand lieu pour l'œcuménisme. Hein. Et la théologie de l'œcuménisme, elle est là, si on veut la découvrir. Hein. Parce qu'on est en face, justement de deux opinions religieuses, de deux manières différentes de concevoir la liturgie. Et plus profondément que ça, de deux attitudes de foi. Donc ça va très loin. Et Jésus, tout de suite, hein, il l'appelle « femme ». Au moment où elle est revenue elle-même. Parce que là, il ne l'a pas appelée femme. Femme, crois-moi. Jésus lui demande d'écouter ce qu'il dit. Et Jésus tout de suite présente un dépassement par rapport à la lutte, par rapport aux oppositions. Un dépassement dans l'ordre de l'adoration. Jésus apporte quelque chose de nouveau. Crois-moi, femme, elle vient, l'heure où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, l'heure du Christ, hein, c'est la croix. Et l'heure vient, c'est à la croix, où de fait, on découvrira la nouvelle adoration en esprit et en vérité. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Alors Jésus ne revient pas sur le lieu de la lutte, mais il montre que c'est dans la continuité de la tradition juive qu'il y a la vérité, et non pas dans la continuité de la tradition des Samaritains. C'est intéressant pour l'œcuménisme, vous voyez, c'est pas du tout les vases communicants. Ce qui est une spiritualité de l'œcuménisme qui est les vases communicants, tu vois. Il faut qu'on soit à peu près la même chose, alors on reprend d'un côté, puis on retire de l'autre. Alors comme ça on arrive, oubliant que c'est une recherche de vérité. Il n'y a pas d'œcuménisme sans une recherche de vérité, c'est impossible. Alors autrement, ce serait un manque de foi. Dès qu'on essaie de trouver, au point de vue psychologique, hein, un équilibre entre les deux, au point de vue psychologique, on peut vivre dans un certain équilibre, mais pas au point de vue œcuménique. Parce que l'œcuménisme implique une recherche de vérité. Et donc, si c'est une recherche de vérité, on ne peut pas trouver la solution dans une espèce d'équilibre. C'est faux. Et Jésus montre bien ici, il montre que c'est un dépassement par rapport aux discussions. Les discussions n'apportent jamais la solution. Il faut aller plus loin. Il faut découvrir quelque chose on avait peut-être oublié, d'un côté comme de l'autre. Mais cependant, le salut vient des Juifs. Jésus rappelle qu'il y a là une grâce de Dieu particulière que les Samaritains n'ont pas. La Samaritaine avait opposé Jésus à Jacob. Jésus répond, le salut vient des Juifs. Mais elle vient l'heure, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Ça c'est net. Et c'est grand, hein. Parce que ça c'est la clé de l'unité. Il ne peut pas y avoir d'unité, de véritable œcuménisme, s'il n'y a pas une adoration en esprit et en vérité. Si tous on adorait en esprit et en vérité, alors à ce moment-là, on est capable de recevoir la vérité de l'Esprit Saint. Au fond, l'Esprit Saint ne peut nous mouvoir que dans la mesure où nous adorons. Et que nous avons ce désir d'adorer en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. C'est cela que le Père cherche. Et donc, il les attire. Et c'est par cette adoration en esprit et en vérité. On essaiera de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette adoration en esprit, en vérité? C'est pas pour supprimer la liturgie extérieure, vous comprenez bien, en disant qu'à partir de Jésus, il n'y aura plus que la prière intérieure. On pourrait expliquer de cette manière-là, mais c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas... Mais Jésus montre que les querelles qui sont sur l'aspect extérieur, sur les gestes, on dirait aujourd'hui le latin ou français, vous voyez, des choses comme ça, non, ou le grec et le latin. Parce que peut-être una voce, mia phoné, ça dépend. Alors ça varie. Alors on peut, les querelles qui sont au niveau des langues n'ont pas de solution. Dieu cherche autre chose. Dieu veut quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu permet ces querelles pour qu'on découvre ce qu'il y a de plus profond. C'est pour ça que Dieu permet les querelles. Pourquoi Dieu permet des rivalités au point de vue liturgique? C'est vrai, c'est invraisemblable, les rivalités au point de vue liturgique. À tous les points de vue, n'est-ce pas, au point de vue qui peut aller même très loin pour nous faire aller vers des positions qui sont insoutenables au point de vue de la foi, ou tout simplement des querelles à l'intérieur de personnes qui s'aiment et qui essaient de chercher le mieux possible la vérité. Si Dieu permet ça, c'est pour qu'on aille plus loin. Qu'on découvre quelque chose de plus profond. Et je crois, c'est bien cela que Jésus montre ici, le dépassement à l'égard de ces deux positions de l'adoration. On identifie l'adoration et le lieu où l'on adore. Maintenant, l'adoration est au plus intime de notre cœur. Le véritable autel, c'est notre cœur, hein. C'est pas la pierre qu'on met à Bethel. C'est le véritable lieu de l'adoration, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui adore. C'est au désert qu'on adore. Et c'est un cœur qui accepte le désert, c'est-à-dire qui accepte la nudité de la créature. Et la dépendance radicale de la créature, c'est celui-là qui adore. Le lieu, très bien, mais c'est secondaire. C'est pas ça, la finalité de l'adoration. Et la finalité et les circonstances de temps et de lieu. Et comment, de fait, on voit très bien comment, si on s'attache trop aux choses extérieures, alors on n'entre pas. Dieu est esprit, et ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Par l'adoration, on veut atteindre Dieu. On veut rejoindre Dieu. Comment voulez-vous rejoindre Dieu? Par des gestes extérieurs, alors que Dieu est esprit et vérité. Et donc on ne peut l'atteindre que de l'intérieur. La femme lui dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, celui-là, il nous annoncera toutes choses. Jésus a réveillé son espérance. Vous voyez comment progressivement il lui redonne vie, une réanimation spirituelle et mystique. Hein. C'est merveilleux de voir ça. C'est la vraie psychanalyse. Hein. C'est faire sortir du tunnel dans lequel on est pour vous remettre dans la pleine lumière. Vous faire sortir d'un endroit dans lequel vous êtes enlisé. Elle était enlisée, cette femme. Pour la remettre dans la pleine lumière. Et je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, on voit très bien l'intuition de cette femme. Elle sent bien, c'est un prophète. Elle a découvert cet homme de Dieu. Et puis, le Messie doit venir. Et l'interrogation, vous voyez, en face du prophète, le point de vue de l'adoration, elle reprend son premier désir d'adorer Dieu. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, on touche l'émotion du cœur de Jésus. Ça n'est pas dit dans le texte, mais c'est dit dans l'attitude de Jésus. Immédiatement, quand Jésus révèle, je le suis, moi qui te parle, je le suis, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Jésus se révèle à cette femme. Parce que l'espérance de cette femme, la foi de cette femme, la pauvreté de cette femme a touché directement le cœur de Jésus. Alors, on a le second moment. Hein. Si j'essaie de ponctuer. Premier moment, Jésus a l'initiative. Deuxième moment, la femme prend l'initiative. On essaiera de comprendre l'unité de tout cela. Troisième moment, là-dessus vinrent ses disciples. On comprend très bien. Troisième moment tout à fait différent. Il fallait que Jésus soit seul pour rencontrer la Samaritaine. Jusqu'ici, on a vu Jésus réalisant une œuvre apostolique avec les apôtres. Il a commencé sa vie apostolique avec les apôtres. En collégialité. Hein. Mais on voit très bien que Jésus est libre. Il garde absolument son indépendance totale, son autonomie. Il est l'envoyé du Père. Et on voit qu'ici, il fallait que Jésus soit seul pour rencontrer la Samaritaine. Quand il s'agissait de Nicodème, c'était tout à fait différent. Nicodème n'est pas intimidé par les Galiléens. Tandis que cette femme, elle est intimidée par devant 12 hommes. Hein. C'est pas drôle. 24 regards sur cette pauvre femme. Hein. Vous voyez ça? C'est quelque chose qui va plus du tout. Cette pauvre femme qui est dans un état on sent bien. Il faut que Jésus soit seul. Enlève sa timidité et la remette dans la vérité. Là-dessus vinrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Aucun pourtant ne dit, c'est pas habituel, un juif et une samaritaine. Jésus jeune, 31 ans, 30 ans, 32. Et puis la Samaritaine, qui n'était plus toute jeune, hein, c'est sûr, je ne sais pas si elle restait encore séduisante par rapport à Jésus, on a plutôt l'impression qu'elle était un peu retournée sur elle-même et repliée sur elle-même. Aucun pourtant ne dit « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» C'est intéressant de voir à la fois la réflexion des apôtres, mais qui n'osent pas parler ouvertement. En face de Jésus. La femme laissa donc sa cruche et s'en fut à la ville. Alors, on voit très bien, la femme a tout de suite compris. Elle est assez fine, hein, cette samaritaine. Elle a gardé un peu de finesse. Elle comprend qu'avec les apôtres, il vaut mieux pas trop s'y frotter. Elle s'en va tout de suite. Hein. Elle s'en va immédiatement. Et alors, elle laisse sa cruche. Elle a reçu l'eau vive. Elle n'a plus besoin de la cruche. Elle comprend qu'elle n'a plus besoin de la technique. Hein. Elle a besoin qu'uniquement, elle a reçu cet amour gratuitement. Et alors, elle s'enfuit à la ville. Et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est très beau le témoignage, vous voyez, ça voit très bien ce que c'est qu'un apôtre. C'est très charismatique ça, vous voyez. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne donne pas un témoignage de doctrine. Un homme qui m'a donné de l'eau vive, personne n'aurait rien compris du tout. Mais comme tout le monde la connaît, ce qui est plus remarquable, c'est de rencontrer un homme qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. Ça, c'est... On pique la curiosité des gens, hein, faisant ça. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? Ça, c'est très beau. Là, on voit qu'il n'y a pas de méthode, hein, au sens propre, pour amener les gens au Christ. Il faut être soi-même sous la mouvance du Saint-Esprit, et puis trouver l'argument qu'il faut. Et ça, c'est un argument extraordinaire. C'est pour cette femme qui était connue comme pécheresse, ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et venaient vers Jésus. Entre-temps, les disciples priaient et disaient, « Rabbi, mange !» Jésus était pris par quelque chose de tout à fait différent que les apôtres. Les apôtres, ils sont dans l'organisation de la nourriture. C'est très important, il le faut, et les douze sont pris par l'organisation de la nourriture. Hein. Et quand on a été faire les frais, on n'a qu'un seul désir quand même, c'est qu'on puisse manger. Alors Jésus a l'air d'être complètement en dehors. Ils ont quitté Jésus, fatigués. Vite, vite, allons lui apporter de la nourriture. Et quand ils retrouvent Jésus, Jésus n'est plus fatigué. C'est tout à fait autre chose. C'est le même Jésus, mais autre chose. C'est le niveau différent. Hein. On sent ça très bien. Rabbi mange. Et il leur dit, moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Correction que Jésus leur fait. Ils ne cherchent pas à comprendre ce qu'est Jésus dans sa vie apostolique. Jésus par rapport à cette femme, ils étaient prêts à juger Jésus. Ils l'ont suspendu, ils n'ont pas osé, mais Jésus est tout entier pris par autre chose, hein. Il est pris par sa mission. Il est l'envoyé du Père. Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Alors évidemment, les soupçons doivent aller du côté de la femme. Hein. On voit très bien lui apporter à manger. Elle a passé avant. Jésus était fatigué, puis cette femme est venue tout de suite. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Une samaritaine, vous voyez, d'autant plus la colère. Hein. Jésus leur dit, mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà la grande joie du cœur du Christ, qui lui a enlevé toute fatigue. Cette joie d'avoir accompli la volonté du Père. La volonté de celui qu'il l'a envoyé, d'avoir accompli son œuvre. C'est beau ça, au point de vue de la vie apostolique. Parce que c'est, on pourrait presque dire, après Cana, on est en présence des prémices de la vie apostolique de Jésus. Cana, on a vu la gloire, hein, c'était des amis. Ici, c'est cette pauvre femme qui n'en peut plus. Cette pauvre femme qui est repliée sur elle-même, il y a une joie pour Jésus, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Cette joie dans le ciel, c'est-à-dire dans le cœur de Jésus. Et dans le cœur de Jésus, il y a cette joie prodigieuse d'avoir repris cette femme et de l'avoir retournée vers la lumière. Mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois et la moisson vient. Et moi, je vous dis, levez les yeux, voyez les campagnes, elles sont blanches pour la moisson. On comprend tout de suite le regard différent du Christ et le regard des apôtres. Jésus souligne une prudence et le don de conseil. Là, vous voyez tout de suite, est illustré merveilleusement. Jésus vit sous la dépendance de l'Esprit et donc sous la dépendance du don de conseil. Il est là entièrement à ce que le Père attend de lui. Les apôtres, ils ont du temps. L'organisation pour le repas. Donc encore 4 mois et la moisson vient. C'est le jugement normal, prudentiel. Oui, il faut encore 4 mois et la moisson vient. Voici que je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes, elles sont blanches pour la moisson. Le double regard, exactement comme pour l'eau, mais c'est très différent ici. Mais on retrouve quelque chose d'analogue. Et on retrouve la même différence entre les apôtres et Jésus, que la Samaritaine et Jésus, que Nicodème et Jésus. On insiste, hein, pour que nous comprenions ce regard tout à fait autre du Christ, de Nicodème, de la Samaritaine, des apôtres. Là, ils se tiennent, ils ont quelque chose de semblable, ces trois. Et en face des trois, nous découvrons le regard de Jésus. Elles sont blanches pour la moisson. Désormais, le moissonneur va recevoir un salaire et amasser du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur se réjouisse en même temps que le moissonneur. Car en cela, le proverbe est véridique. Autre est le semeur, autre le moissonneur. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce pourquoi vous n'avez pas peiné. D'autres ont peiné. Et c'est vous qui profitez de leur peine. C'est beau pour comprendre la coopération dans la vie apostolique. Hein, quand on croit qu'on a des fruits immédiats, c'est un autre qui a semé avant. Il ne faut pas l'oublier, et on a toujours la tendance, quand on moissonne, que c'est à cause de nous. N'est-ce pas? Grâce à la prédication, il y a eu des retours en masse, hein, c'est merveilleux. Oui, mais il y a peut-être qui ont semé avant, et vous ne faites que moissonner, n'oubliez pas, n'est-ce pas? C'est vrai, ça, c'est merveilleux, ça. Parce que Jésus leur donne une leçon, hein. Il leur donne une leçon au milieu même du moment où lui à la fois sème et moissonne, parce que c'est le propre du Christ, c'est de semer et de moissonner. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce pourquoi vous n'avez pas peiné. D'autres ont peiné, et c'est vous qui profitez de leur peine. Donc, il y a tout ce petit dialogue étonnant de Jésus avec les disciples. Là aussi, c'est très riche. C'est très riche parce que c'est une correction fraternelle. C'est une correction fraternelle que Jésus fait aux disciples. Il l'a fait sur le temps. Pas un enseignement théorique. Non, c'est comme ça qu'on enseigne les apôtres. C'est sur le temps. Quand c'est encore brûlant. Et on voit bien ce que Jésus veut dire et la joie du cœur de Jésus. Bon nombre de Samaritains. Alors vous continuez de ponctuer à différents moments. Bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui, à cause de la parole de cette femme qui témoignait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais c'est efficace. Et c'est charismatique, merveilleusement charismatique. Quand donc les Samaritains vinrent vers lui, ils le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Et c'est en bien plus grand nombre qu'ils crurent à cause de sa parole à lui. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons. Nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est aussi très beau ça pour humilier la Samaritaine, n'est-ce pas ? Pour montrer qu'on est tous des instruments inutiles. Et puis c'est tellement typique des hommes. Hein. C'est pas drôle de croire à cause de la Samaritaine. C'est plus agréable de croire directement à cause du Christ. Alors on voit très bien la manière dont ils se récupèrent. Hein. Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons. Nous nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tout ça a un réalisme étonnant. On voit la scène. Alors voyez la différence avec Nicodème. Nicodème, c'est un enseignement. C'est un enseignement théologique. Alors un enseignement théologique, ça se découle. Et Jésus ne demande pas à Nicodème, à la fin de son enseignement, « Est-ce que tu es d'accord ?» La dernière chose à faire, je vous ai déjà dit, avec les intellectuels, dégonflez-les, mais ne leur demandez surtout pas s'ils sont d'accord. Et vous partez, et vous les laissez partir la nuit. Avec la Samaritaine, au contraire, c'est tout à fait différent. La Samaritaine fait tout de suite une proclamation de foi. Immédiatement. Vous voyez, la conversion du cœur, la conversion de l'intelligence, la purification de l'intelligence, la purification du cœur, c'est tout à fait différent. Il y a deux choses tout à fait. Alors ceux qui prétendent qu'intelligence et cœur c'est la même chose, qui lisent l'entretien de notre Seigneur à Nicodème et qui lisent l'entretien de notre Seigneur à Samaritaine, alors ils verront peut-être la manière dont Jésus illustre admirablement, mais en même temps le vit, admirablement, la purification du cœur. Et la purification de l'intelligence, c'est tout à fait différent. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est beau même de voir cette diversité, puisque Dieu se sert des hommes pour nous faire comprendre quelque chose qu'il veut nous faire comprendre à travers eux. Et à travers Nicodème, il nous montre l'intelligence d'Israël. À travers la Samaritaine, il montre la sœur séparée qui, à cause de lutte religieuse, n'a pas eu assez de fermeté dans sa foi et son adoration. Elle est pardonnable, hein, et c'est pour ça que Jésus l'a reprise. À cause de ce doute qu'on avait mis dans son cœur à l'égard des choses les plus importantes, quand on commence à douter par rapport à l'adoration, on ne peut plus reposer sur le roc. Par l'adoration, on s'appuie sur le roc. Et donc il y a quelque chose de stable, de ferme. C'est l'adoration qui nous maintient dans l'unité profonde et qui maintient quelque chose de fondamental dans notre vie. Celui qui adore ne peut pas partir n'importe où. Parce qu'il y a une purification, une rectification qui se fait au plus intime de lui-même. Alors, comprenons bien la théologie de Nicodème. C'est par là qu'on va essayer de comprendre la différence entre extérieurement, c'est tout à fait différent, c'est facile à comprendre. Intérieurement, il y a une complémentarité entre les deux. Comme une complémentarité à travers tout l'évangile de Saint Jean. Jésus à Nicodème enseigne le mystère de la grâce. Nous l'avons vu. Et c'est pour ça que c'est une naissance. Et ceci, c'est donné aux théologiens. Parce que seul le théologien peut vraiment comprendre la théologie de la grâce. C'est vrai, c'est très difficile de faire comprendre la théologie de la grâce à ceux qui ne sont pas théologiens. Tandis que c'est propre pour le théologien. Et le théologien doit connaître le mystère de la grâce. Le connaître autant qu'il le peut. Il doit entrer dans ce mystère. Et c'est ce qui est l'essentiel, vous voyez, en comprenant bien. L'essentiel, c'est... C'est la manière dont on regarde le mystère de la grâce qui nous permet de comprendre la valeur d'une théologie. Ça, tout de suite, vous avez la note. Mais regardez la grâce. C'est très très vite fait. Quand vous êtes en face d'un théologien que vous ne connaissez pas, prenez tout de suite le traité de la grâce. Vous verrez. C'est forcé parce que c'est le point de rencontre de l'homme et de Dieu. C'est la manière dont Dieu transforme l'homme. Alors, il suffit de regarder si le traité de la grâce est donné d'une manière humaniste ou d'une manière divine. Alors, on comprend tout de suite les deux tendances. Quand il s'agit de la Samaritaine, c'est plus la naissance, c'est l'eau vive. Alors, quel est le symbolisme de l'eau vive? C'est facile à comprendre, puisque l'eau vive doit devenir en nous une source d'eau jaillissante. C'est donc le mystère de l'agapé. La charité est représentée par ce mystère de l'eau vive. Puisque la charité vient en nous et devient en nous une source jaillissante pour la vie éternelle. C'est la charité qui fait de nous des sources d'amour. Nous devons avoir des initiatives de charité. Donc il faut être source. Et nous avons en même temps une réceptivité de charité. Il y a les deux aspects dans la charité. Il y a à la fois une attitude de réceptivité, c'est un don. Et c'est le don de nos vives. Et en même temps, nous devons avoir des initiatives dans la charité. Et c'est pour ça que c'est une source jaillissante pour la vie éternelle. Vous voyez le double symbolisme merveilleux, qui est évidemment très étonnant, qui nous aide à saisir ce mystère de la charité. Par où nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. Et alors vous comprenez ici comment la première partie du discours et la seconde partie du discours en réalité ne font qu'un seul enseignement. Quelle est la première incarnation de la charité en nous? En théologie mystique, c'est l'adoration en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité, c'est le mystère de la charité, de l'agapé, qui s'empare de ce qu'il y a de plus radical dans le cœur de l'homme, sa capacité d'adorer. L'adoration relève de la vertu de religion, ou relève plus exactement de l'aspect religieux de l'homme. Eh bien, la charité s'empare en premier lieu, puisqu'elle est forme de toutes les vertus. La charité doit informer toute la part humaine. Et qu'est-ce que fait en premier lieu la charité? C'est de transformer notre attitude religieuse. Et de transformer radicalement notre attitude religieuse pour que nous puissions adorer en esprit et en vérité. C'est donc l'adoration sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et l'adoration sous la mouvance de l'Esprit Saint, c'est l'adoration sous la mouvance du don de piété. C'est le don de piété qui transforme l'exercice de la charité, qui transforme l'exercice de la vertu de religion ou de l'adoration, pour en faire une adoration en esprit, c'est-à-dire une adoration pleine d'amour. Et en vérité, pour nous faire comprendre que c'est là, en premier lieu, où l'eau vive, la charité qui est donnée gratuitement, doit s'emparer de tout notre cœur. C'est le lieu où le levain transforme la pâte. Adoration en esprit et en vérité.